Radio Prague, les informations.
Le tribunal municipal de Prague a interdit un défilé néo-nazi prévu ce samedi. Le territoire tchèque fera partie de l'espace Schengen dans un peu plus d'un mois. Et puis en foot, le Sparta Prague a battu Toulouse 3-2 hier soir en Coupe de l'UEFA. Plusieurs rassemblements civils ou religieux sont prévus samedi à Prague pour protester contre un défilé annoncé par l'extrême droite tchèque le jour de l'anniversaire de la Nuit de Cristal. Le défilé, organisé par les néo-nazis du mouvement des jeunes démocrates nationalistes, officiellement pour protester contre la présence militaire tchèque en Irak, a été déclaré illégal par les autorités. Le mouvement a maintenu sur son site internet son appel à manifester dans le quartier juif de Prague. Quelques 1500 policiers seront mobilisés samedi pour maintenir l'ordre. La République tchèque fera partie de l'espace Schengen à partir du 21 décembre prochain, une décision prise à Bruxelles, par les ministres de l'Intérieur des pays membres de l'Union européenne. À partir de cette date, les contrôles dans les pays seront effectués seulement dans les aéroports internationaux à Prague en ce qui concerne la République tchèque. Le ministre de l'Intérieur, Ivan Langer, évalue le coût de l'opération en rapport avec l'entrée du pays dans l'espace Schengen à près de 500 millions de couronnes. Pour la première fois de son histoire, České dráhy, la société des chemins de fer tchèque, s'est vue infliger une amende de 5,5 millions de couronnes, environ 204 000 euros, par la région de la ville d'Olomouc, en Moravie, pour le retard de ses trains. La région a justifié sa décision en expliquant que les trains ne respectaient pas les horaires, alors qu'elle participait financièrement au fonctionnement des services des chemins de fer. Plusieurs cérémonies se sont tenues ce vendredi dans de nombreux endroits du pays à la mémoire des anciens combattants. La ministre de la Défense, Vlasta Parkanova, participait notamment à une cérémonie sur la place de la Victoire à Prague. On passe au sport avec du foot et le Sparta Prague qui a battu Toulouse 3-2 jeudi soir en France à l'occasion de la deuxième journée de la phase de groupe de la Coupe UEFA. Grâce à cette victoire à l'extérieur, le Sparta s'est relancé dans la course à la qualification après avoir perdu son premier match 2-1 à domicile contre Zurich. Le second représentant tchèque engagé en Coupe UEFA, Mladá Boleslav, s'est incliné devant son public face aux Espagnols de Villarreal, 2-1 également, malgré un but de son attaquant français Noël Alexandre Mendy. Il s'agissait là du premier match du club de Bohème Centrale dans son groupe. Et puis toujours en foot, le sélectionneur de l'équipe nationale tchèque, Karel Brückner, a indiqué qu'il comptait toujours sur l'attaquant de Lyon, Milan Baroš, malgré ses problèmes en club et ses frasques personnelles. Le fait qu'il n'ait pas joué en club depuis plus d'un mois inquiète le sélectionneur, mais il a quand même mis sur la liste pour les deux prochains matchs de qualification à l'Euro 2008 contre la Slovaquie et à Chypre. Le meilleur buteur de l'Euro 2004 a par ailleurs été flashé jeudi dernier au volant de sa Ferrari à 271 km/h dans l'est de la France. Il se calmera quand il se mariera, a plaisanté Karel Brückner. On termine avec la météo. Un ciel toujours couvert, des pluies, des températures autour de 7 degrés et de la neige en montagne à partir de 500 mètres d'altitude. Ce sont les prévisions pour ce week-end. C'était le bulletin d'info présenté par Alexis Rosenzweig.
Faits et événements en République tchèque. Alain Slivinski.
Pour ce dernier magazine d'actualité de la semaine, nous avons préparé les thèmes suivants. Les ministres de l'Intérieur des pays membres de l'Union européenne ont donné le feu vert à l'élargissement de l'espace Schengen, ce qui abolit encore plus les différences entre les anciens et les nouveaux membres. Nous continuerons avec le prix Nobel décerné il y a 60 ans aux savants d'origine tchèque, les Cori, cela avec Václav Richter. Alexis Rosenzweig nous présentera la nouvelle pièce de théâtre de Václav Havel sur le départ, tandis que Jaroslava Gisubelova a eu la chance d'interviewer Paco Dessina en spectacle à Prague. Bonne écoute et moments agréables à toutes et à tous, c'est ce que vous souhaitent tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette émission. L'élargissement de l'espace Schengen à 9 pays nouveaux membres sur les 10 qui sont entrés dans l'Union européenne en 2004 devient une réalité de plus en plus proche. En dehors de Chypre, les frontières tomberont pour eux le 21 décembre. C'est ce qu'ont décidé les ministres de l'Intérieur des 27 réunis à Bruxelles. L'espace Schengen comptera donc 22 pays membres de l'Union européenne, y compris la République tchèque, en dehors pourtant de la Grande-Bretagne, de l'Irlande, Chypre, la Bulgarie et la Roumanie, mais aussi la Norvège et l'Islande. Quelle est la signification de cette décision pour le ministre tchèque de l'Intérieur, Ivan Langer?
Il a été définitivement confirmé que le 21 décembre sera la date de la destruction des derniers maillons du rideau de fer, de l'abolition des contrôles aux frontières de la République tchèque. Les citoyens tchèques pourront donc enfin bénéficier d'une liberté fondamentale, celle de la libre circulation sans contrôle.
Plus de contrôles donc aux frontières terrestres, mais il faudra encore attendre le mois de mars 2008 pour que les contrôles aux aéroports internationaux soient aussi abolis. Plus de frontières, plus de gardes-frontières, mais le citoyen tchèque pourra-t-il se rendre en Allemagne ou en Autriche comme bon lui semblera? Pratiquement oui, mais il faudra quand même se munir d'une pièce d'identité pour un éventuel contrôle dans l'arrière-pays. En plus de cela, le simple amateur de champignons devra faire attention à n'emprunter que les sentiers touristiques enregistrés quand il se trouvera dans un parc ou une réserve naturelle s'étendant sur le territoire de deux États. L'élargissement définitif de l'espace Schengen doit encore être adopté par le Parlement européen. À ce propos, le ministre de l'Intérieur précise.
Je suis persuadé que plus rien n'empêche de prendre une décision définitive. Des consultations doivent encore avoir lieu au Parlement européen, mais cela ne sera qu'une simple formalité. Il s'est avéré que si l'on rassemble la vision, la volonté, un travail intense et la coopération internationale, on arrive à atteindre un objectif aussi ambitieux.
En effet, arriver à ce que l'espace Schengen soit élargi rapidement n'a pas été facile. Des problèmes importants sont apparus avec le nouveau système de contrôle, avec la base de données informatique, ce qui a conduit à repousser la date de l'élargissement initialement fixée au 1er janvier 2007. En un an, les pays possédant des frontières avec des États qui ne sont pas membres de l'Union européenne, comme la Pologne ou la Slovaquie surtout, ont réussi à aménager ces frontières selon les critères de Schengen. Le ministre de l'Intérieur slovaque, Robert Kaliňák d'ailleurs, reconnaissait à Bruxelles que la République tchèque avait apporté une aide importante. Beau cadeau de Noël donc pour les citoyens des pays nouveaux membres de l'espace Schengen. À propos, savez-vous où se trouve Schengen ? C'est un petit village du Luxembourg où le traité sur la libre circulation des personnes au sein de l'Union européenne a été signé en 1985. Il y a 60 ans, Carl Ferdinand Cory et son épouse Gertie Theresa Radnitz-Cory recevaient le prix Nobel de médecine. C'est pour rappeler l'œuvre et la vie de ces deux chercheurs nés à Prague que la faculté de médecine de l'université Charles a organisé du 7 au 9 novembre un séminaire en présence de descendants de cette illustre famille, Václav Richter.
Après les Curie et les Joliot-Curie, les époux Cory sont devenus le troisième couple à obtenir le prix Nobel. En 2000 déjà, des plaques commémoratives avaient été dévoilées à Prague sur la façade de la maison de la rue Salmowska, où est né Carl Ferdinand Cory en 1896, et sur celle de la rue Petrska, où a vu le jour la même année sa future femme. Les conférences données cette semaine dans le cadre du séminaire ont été consacrées à la vie, aux liens familiaux et aux recherches des Cory. Des visites guidées de leur maison natale et des cimetières où reposent des membres de leur famille étaient également organisées. Les chemins de Carl Ferdinand et de Gertie Theresa se croisent lors de leurs études de médecine à l'université allemande de Prague, où ils finiront par obtenir en 1920 leur diplôme de docteur en médecine. Encore au cours de la même année, ils partent pour Vienne, où ils se marient contre la volonté de leurs parents, qui ne voient pas d'un bon œil la liaison de cette jeune fille juive avec le jeune docteur. Le couple envisage de s'établir à Vienne, mais la situation matérielle et professionnelle que l'Autriche peut lui offrir est loin d'être satisfaisante. C'est pour cette raison que les Cory partent pour les États-Unis, où ils finiront par travailler ensemble à l'université George Washington, à Saint-Louis, dans l'État de Missouri. Leurs recherches dans le domaine de la biochimie aboutissent à la découverte de la conversion catalytique du glycogène et le rôle de l'hypophyse dans le métabolisme du sucre. Pavel Tchech, chef du cabinet d'histoire de la médecine de l'université Charles, explique les mécanismes de ce processus.
C'est la découverte des réactions chimiques du métabolisme des polysaccharides. Le processus appelé coricycle concerne le glycogène, le saccharide animal qui se dépose dans le foie, et l'exploitation du glucose produit par la conversion du glycogène. Le glucose est ensuite canalisé par le sang vers les muscles. Dans les muscles, il est exploité et transformé en acide lactique, renvoyé par le sang vers le foie. Ainsi, le cercle se referme et le processus se répète infiniment.
C'est en 1947 que la découverte des époux Cori est couronnée du prix Nobel de médecine. Gertie Teresa mourra en 1957 et son mari 27 ans plus tard.
L'ancien président de la République, Václav Havel, a officiellement présenté cette semaine à Prague sa nouvelle pièce de théâtre, Odcházení, sur le départ. Une pièce que l'auteur décrit comme librement inspirée du roi Lear de Shakespeare et dont la première est prévue en juin prochain. Détail avec Alexis Rosenzweig.
C'est l'histoire de quelqu'un qui occupe une importante fonction et qui doit la quitter. C'est ce qu'a indiqué Václav Havel en présentant sa dernière œuvre, tout en précisant tout de suite que cette histoire n'avait rien à voir avec sa propre expérience de ces dernières années. Cette nouvelle pièce, publiée aux éditions Respect, Václav Havel avait commencé à l'écrire dans les années 80, avant la révolution de velours, mais certains repèrent déjà des ressemblances avec des personnages réels, un des principaux protagonistes pouvant faire penser à l'actuel président de la République, Václav Klaus, longtemps rival politique de l'auteur pendant ses années à la tête de l'État.
Ce sont des choses que vont chercher surtout certains journalistes ou quelques spectateurs. Les metteurs en scène par autant, parce que je suis en contact avec eux et je leur explique beaucoup, en particulier pour les mises en scène ici, dans le pays.
Le premier rôle féminin sera interprété par la seconde épouse du président, Dagmar Havlova, qui avait interrompu sa carrière d'actrice pendant les mandats de son président de mari. Et cette pièce est pour tout public, comme le précise son auteur.
Ma pièce sur le départ est comme toutes mes pièces précédentes destinée à tous ceux qui vont se rendre au théâtre. Mes pièces ont été beaucoup jouées dans le monde entier pour différents publics, mais il ne faut pas se voiler la face. Le théâtre, et particulièrement ce genre de théâtre, est un genre minoritaire. La majorité des gens ne va pas au théâtre. Ils regardent plutôt la télévision, vont sur Internet et au cinéma.
Alors près de 20 ans après sa dernière pièce, Václav Havel a-t-il le trac? C'est la question qui lui a été posée lors de la conférence de presse.
Je ressens toujours un peu le trac, mais pas beaucoup, parce que je me suis un peu endurci avec les années. J'ai vu tellement de mises en scène de mes pièces, souvent grotesques aussi, qu'il en faut beaucoup pour me perturber. Et en plus, ici, il y a de l'espoir que ce soit bien fait au théâtre de Vinohrady.
Et la première nationale et mondiale de la pièce devrait donc avoir lieu au théâtre na Vinohradech en juin prochain, un théâtre qui fête ses 100 ans cette année.
Du 8 au 11 novembre, le théâtre de la Comédie à Prague présente deux projets de danse contemporaine montés par le chorégraphe italien établi en France, Paco Dessi. Le premier spectacle, Saut dans le vide, créé et déjà présenté à Prague en 2005, est une pièce pour 6 danseurs tchèques et slovaques, tandis que le second, Chevalier sans armure, connaît sa première à Prague. Paco Dessina l'a créé en 2006 au Théâtre de la Cité Internationale à Paris. Qu'est-ce qui est le plus important dans son travail? Il l'explique au micro de Jarka Gisubelova.
Pour moi, la base de mon travail, c'est l'être humain. Et le spectacle, c'est un moment donné pour se retrouver soi-même.
Est-ce qu'on peut parler de vos deux spectacles? Pourquoi le saut dans le vide, tout d'abord?
Oui, justement, le saut dans le vide, salto nel vuoto, c'est parce que quand j'étais invité par Marie Kinski à le spectacle avec les danseurs tchèques, slovaques et français, donc c'était la première fois que j'ai travaillé avec eux. Eux, ils connaissaient pas véritablement mon travail et surtout, ils avaient plutôt une habitude à travailler avec une technique sur des idées. Et moi, je voulais les amener à travailler avec quelque chose de plus profond d'eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose un peu déconcertant, parce que tout un coup, on a l'impression qu'on nous enlève les sols sous les pieds.
Vous avez déjà présenté ce spectacle il y a 2 ans à Prague, et c'est donc un développement de ce thème?
Non, c'est les mêmes spectacles, mais un spectacle n'est jamais le même, dans le sens qu'à chaque fois qu'on le joue, il est recréé. Ce n'est pas la répétition de quelque chose qui existe déjà. Donc le spectacle, il se nourrit.
Votre deuxième spectacle, pouvez-vous le présenter à un auditeur radiophonique?
Oui, alors le deuxième spectacle, c'est Chevalier sans armure. C'est un duo que je danse moi-même avec Valeria Picella, c'est une interprète avec qui je partage le travail depuis 10 ans. Elle vient de la même ville que moi, donc de Naples. Donc on partage une histoire volcanique. Pour moi, c'est aussi un retour à la danse, parce que j'avais arrêté pendant 3-4 ans de danser. Et justement, je voulais parler de cette nudité, de cette humilité qu'on a besoin pour danser, de cet déshabillage, je dirais. Donc le titre Chevalier sans armure, pour moi, il était très explicite, parce que dans le chevalier, il y a quelque chose de l'ordre de la croisade, non, d'essayer, de chercher quelque chose que c'est pas de l'ordre de la matière, et d'enlever l'armure, ça veut dire qu'on est humble face à la vie. Voilà, c'est juste de ça que je voulais parler.
Dernière question, oui, la collaboration avec les danseurs tchèques, comment vous la trouvez?
Moi, j'ai trouvé très intéressante. Il y a eu une vraie rencontre, ça c'est la chose plus belle. Donc après, vous savez, quand il y a rencontre, vous allez au-delà des cultures, parce que l'être humain, quand même, au fond, il est relié partout. Dans la profondeur, on est tous frères et sœurs. Donc, dans le moment qu'il y a rencontre, il y a ouverture, il n'y a aucun problème.
Eh bien, nous allons maintenant quitter l'actualité pour nous rendre dans le domaine de l'économie avec notre rubrique habituelle sur les ondes de Radio Prague.
Économie, commerce.
La ville de Prague inaugure un nouveau système de subvention à la culture, un système basé notamment sur le nombre de billets vendus. Écoutons à ce sujet Ivana Kreutzmanova, fondatrice du célèbre festival international de danse Tanec Praha et conseillère du ministre de la Culture de la République tchèque, Andrej Hrab, directeur du théâtre Arha, et Milan Richter, adjoint à la culture pour la ville de Prague. Tout a commencé avec un procès, comme le raconte le directeur du théâtre Arha, théâtre du centre de la capitale.
Město potom, co jeden představitel takového profitního
divadla. La ville, après que le propriétaire d'un des théâtres commerciaux de Prague a porté plainte auprès de la Cour européenne de Strasbourg, a interrompu le processus de subvention. Nous sommes actuellement au théâtre Arha face à un problème de taille. Nous sommes au mois de novembre et notre subvention pluriannuelle s'achève le 31 décembre et nous ne savons pas ce qui nous attend.
Le directeur du théâtre Arha, théâtre indépendant financé à 50% par les subventions de la ville de Prague, exprime son mécontentement face à un système mis en place dans l'urgence.
Il est absolument vyloučeno, aby kulturní politika vznikla.
Il est absolument exclu qu'une politique culturelle naisse en 3 semaines. Ce document est né en réalité d'un problème politique, d'une confrontation entre des organisations à but non lucratif et d'autres à but commercial. Ce document cherche un compromis pour atténuer les tensions, mais il ne définit pas une vision. Ce n'est pas un document qui s'intéresse réellement au rôle de la culture dans la vie de la capitale.
Le nouveau système proposé par la ville de Prague ne soulève pas que la question de sa propre création. Deux grandes nouveautés voient le jour. Un quart des subventions seront attribuées sur la base d'une accréditation sur des critères quantitatifs, en fonction du nombre de billets vendus. Autre première dans la vie culturelle de la capitale, 20% des subventions seront réservées aux projets des étudiants des écoles d'art et des jeunes artistes de moins de 35 ans. Le reste des subventions sera traditionnellement attribué aux collaborations internationales et aux subventions pluriannuelles, 4 ans au maximum. L'adjoint à la culture de la mairie de Prague, Milan Richter, explique sa position quant aux subventions attribuées sur critères quantitatifs.
tak aby divadla měla jistotu, že dostanou peníze. Takže aby...
La ville de Prague donne à la culture chaque année 900 millions de couronnes. Combien de citoyens ont vu la couleur de cet argent? Donc je pense que la seule voie à suivre est la subvention par rapport au nombre de billets vendus. Ce qui veut dire que le théâtre sait combien il aura de spectateurs et donc à quelle subvention il peut s'attendre. Et le Pragois sait combien il a reçu de la ville de subvention de son propre argent, puisqu'on parle ici de l'argent de tous.
Ze svých peněz, protože to jsou peníze všech, tak kolik na to vlastně dostal příspěvek.
Ivona Kreuzmanová, fondatrice du célèbre festival de danse tanec Praha, se pose la question de l'application d'une telle idée.
La subvention du billet vendu, comme j'ai dit, c'est le système incomparable avec ça que je connais de l'Union européenne. Alors, il faut savoir si ça marche ou pas. Il faut attendre vraiment l'exploitation pratique. Je ne peux pas imaginer comment ils veulent le compter. Je ne peux pas imaginer comment ça va marcher avec les organismes qui sont créés au but non lucratif et ceux-ci qui sont créés avec vraiment les entreprises pour le profit des fondateurs de ces entreprises. Alors là, il faut faire la différence et je vais voir comment ils vont développer les détails.
Au-delà de la réalisation pratique de cette accréditation, le directeur du théâtre Arha, lui, interroge la raison de cette formule.
Není to dotace umělcům, ale je to dotace divákovi.
Ce n'est pas une subvention pour l'artiste, mais pour le spectateur, qu'il aille voir une comédie musicale, une pièce de théâtre de qualité ou de la danse contemporaine. Aucune spécificité n'est prise en compte, qu'il s'agisse d'une spécificité sociale, artistique, économique, de l'identité juridique de l'organisation. Ça, je pense que c'est un cas unique en Europe, sans équivalent dans la politique culturelle moderne.
Který v moderní kulturní politice nemá obdoby.
Autre nouveauté, le soutien accru aux projets artistiques d'étudiants ou de jeunes artistes. La conseillère du ministre de la Culture exprime ses réserves.
Bon, alors la question des jeunes, il faut bien dire que, bien sûr, ça, c'est pas la nouveauté. On a toujours soutenu la création des jeunes artistes qui sont sortis de l'école. Maintenant, le système s'ouvre encore plus pour les étudiants des écoles artistiques. Je ne suis pas 100% sûre parce que ce sont les systèmes qui se croisent un peu avec l'éducation et les systèmes éducatifs. Alors il faut bien savoir, est-ce que ça ne croise pas trop, est-ce que ça ne donne pas un peu plus de possibilités pendant les études qu'après qu'on finit l'école. Et je ne parle plus d'être plus maturé quand les étudiants sortent de l'école, ils font quelques pratiques, quelques projets. Ils sont 35 et ils sortent de ce système. Qu'est-ce que ça veut dire? Si ça mange trop d'argent, ça peut vraiment avoir une influence très négative au développement des arts professionnels.
La conseillère du ministre de la Culture note cependant un progrès dans le nouveau système de répartition des subventions de la ville de Prague à la culture. C'est la composition de la commission qui décide de l'attribution de ces subventions, défendue par l'adjoint à la culture Milan Richter.
Les experts de la commission critiquaient le fait que siégeaient à cette même commission les politiques qui ne comprennent pas les enjeux de la politique culturelle de la ville. La nouvelle commission sera composée uniquement d'experts. Elle sera présidée par un politique sans droit de vote et sera composée de 12 experts. Chaque année, un tiers de la commission sera remplacé. Cette rotation a pour but de limiter l'influence des affinités personnelles entre les artistes et la commission.
Ivana Kreuzmanová salue ce changement.
Jusqu'à ce moment, le comité qui a décidé les subventions ou recommandé les subventions de la ville était créé moitié-moitié des experts et des politiciens. Avant, il y a 2 ans, on n'a eu que les politiciens. Maintenant, le nouveau maire adjoint est venu avec le système qui suit les recommandations de l'Union européenne et de plusieurs politiques culturelles en Union européenne, c'est-à-dire que le comité devrait être créé par les experts, que par les experts. Et les politiciens doivent suivre la recommandation des experts. Et là, je trouve vraiment le progrès énorme parce que les experts doivent être nominés par les organisations professionnelles, c'est-à-dire par les professionnels eux-mêmes. Et comme ça, on peut déjà espérer dans l'évaluation du système de subvention de la ville beaucoup plus profonde et beaucoup plus professionnelle.
De nombreuses questions restent ouvertes, comme celle des subventions par le biais de partenariats, toujours opaques, ou celle des organisations publiques aux revenus certains. La question de ces organisations, une centaine dans la République et qui représentent 95% du budget pour la culture en République tchèque, concerne tout le pays. Plus d'informations dans une prochaine édition avec Ivana Kreutzmanova, conseillère du ministre de la Culture de la République tchèque.
Et c'est ainsi qu'il est temps de nous quitter, sans pour espérer vous retrouver à l'écoute d'une prochaine émission de Radio Prague sur les ondes ou sur le web.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9750 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz. And at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 hours on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9890 kHz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9890 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours UTC on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on 13580 kHz.